l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Tous les regards sont tournés vers le Vatican après la mort du pape. On avait des petits soucis de liaison, mais nous sommes bien en ligne depuis Rome avec le responsable de la rédaction francophone de Radio Vatican.
Oui, Jean-Charles Puzzoli, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il est 20h35 aujourd'hui, en ce moment à Rome. On va revenir évidemment sur la disparition du pape François qui occupe beaucoup l'actualité. Un mot peut-être, Jean-Charles Puzzoli, parce que un peu plus de 24 heures après sa disparition, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur le calendrier des jours qui viennent, parce que tout se met en place progressivement, si je comprends bien?
Effectivement, oui. Alors, le calendrier des prochains jours est décidé par les cardinaux qui sont déjà présents à Rome. Vous savez qu'après le décès du pape, ils commencent à se réunir de façon formelle ou informelle, mais surtout dans ces centres de rencontre qu'on appelle les congrégations générales. Et la première a eu lieu ce matin au Vatican et ils ont décidé donc de la date des funérailles du pape François, qui aura lieu donc samedi 26 avril à 10h heure de Rome. Sur la place Saint-Pierre, on attend d'ailleurs des centaines de milliers de pèlerins. Ils ont décidé aussi la façon dont la dépouille du pape sera exposée à la vénération des fidèles. Enfin, les premiers détails ont été rendus publics. Il y en aura d'autres, évidemment, dans les prochains jours. Ce que l'on peut dire, c'est que demain matin, mercredi matin, la dépouille du pape François, qui est actuellement exposée, alors non pas à la vénération de tous les fidèles, mais pour ses collaborateurs et pour les employés du Vatican, dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, qui a été, vous le savez, sa résidence tout au long de son pontificat, car le pape n'a jamais résidé dans les appartements pontificaux, mais dans cet hôtel que Jean-Paul II avait fait construire en 1996, toujours dans le Vatican, mais qui était destiné à accueillir les hôtes des souverains pontifes, et qui depuis 2013 accueille le souverain pontife. Donc François repose pour l'instant dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Le corps sera déplacé demain en procession à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Cette procession durera environ 1h30, entre 9h et 10h30. Une procession accompagnée de chants liturgiques et bien sûr de nombreux fidèles qui suivront cette célébration. Le corps du pape François va traverser la place Saint-Pierre pour entrer par la porte centrale de la basilique vaticane et à côté de l'autel, au-dessus de la tombe du premier apôtre Pierre, eh bien, son corps sera déposé dans le cercueil. Alors, il est déjà dans le cercueil, mais il sera exposé dans le cercueil à la vénération des fidèles, et ce jusqu'à vendredi soir, avant que le cercueil ne soit refermé pour les funérailles de samedi matin.
Alors, le pape François a fait le choix aussi d'être inhumé à la basilique Sainte-Marie Majeure et non pas là où sont enterrés la plupart des papes. Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ce choix? Qu'est-ce qui a guidé le pape François pour faire cette demande particulière?
Alors d'abord, il y a sa dévotion à Marie qui est très forte. Et puis Sainte-Marie Majeure, c'est la basilique qu'il a fréquentée au moins 126 fois. Pourquoi je dis au moins 126 fois? Car c'est avant chaque voyage et après chaque voyage apostolique, il allait prendre un temps de prière devant l'icône de la Vierge Salus Populi Romani, la Vierge qui protège le peuple romain. L'icône est exposée dans cette basilique, l'une des quatre basiliques papales de Rome. Et François a une énorme dévotion pour cette Vierge Marie. Et outre le fait qu'il est allé se recueillir de nombreuses fois, et même d'ailleurs récemment après être sorti de l'hôpital, eh bien, il avait émis le souhait d'être enterré dans cette basilique. Ce n'est pas une exception, mais ça fait ceci dit 300 ans qu'aucun pape ne s'était fait enterrer en dehors du Vatican. Et donc après les funérailles du pape samedi matin, eh bien, il y aura une deuxième translation de la dépouille du cercueil entre la basilique Saint-Pierre de Rome et la basilique papale. Alors ça va être un peu compliqué au niveau sécurité et organisation. Il va falloir que tout le cortège funèbre traverse lentement et en procession aussi la ville de Rome pour aller jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure. Mais le choix du pape, il est compréhensible. C'est dû essentiellement à sa dévotion. Et puis alors, petite anecdote de l'histoire, le lieu de sépulture sera juste à côté d'un pape très conservateur qui dit, et François que l'on a qualifié plusieurs fois de pape progressiste, sera avec le pape qui a initié, disons, les messes traditionnelles, celles que même le pape François a, disons, plutôt combattu au cours de son pontificat.
Alors justement, on ne va pas dresser un bilan complet du pontificat de François, de ses 13 ans de pontificat. On l'a souvent appelé le pape des pauvres. Est-ce que c'est réducteur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a donné une impulsion particulière? Est-ce que ça restera dans son bilan?
Alors c'est vrai, c'est pas réducteur du tout. Je pense que c'est tout à son honneur de souligner cet aspect du pontificat. Il l'a souligné de façon très claire. D'abord, il faut rappeler que son tout premier déplacement, son premier voyage a été pour l'île de Lampedusa, au sud de la Méditerranée. C'est une petite île qui tourne le dos à l'Europe, mais qui regarde franchement en face la Tunisie et les côtes de l'Afrique du Nord. Et c'est sur cette île que se réfugient la plupart des migrants qui tentent de quitter l'Afrique pour rejoindre l'Europe. Ils arrivent au bout de quelques dizaines de kilomètres sur une côte toute somme faite européenne, et donc c'est une porte d'entrée pour l'Europe. Le pape François a plusieurs fois dénoncé ce cimetière à ciel ouvert qu'est la Méditerranée. Il a tiré les oreilles, passez-moi l'expression, de plusieurs chefs d'État, de plusieurs organisations internationales sur ce laisser-faire, sur cette inaction face à ce drame des migrants. Alors oui, c'est une option préférentielle pour les pauvres que François a largement souligné au cours de son pontificat. En témoigne aussi le fait qu'il ait créé cardinal Konrad Krajewski, qui est un prêtre polonais, et il l'a créé cardinal alors que cet homme est aumônier de la maison pontificale. C'est celui qui s'occupe des pauvres aux portes du Vatican, et cet aumônier a fait 11 voyages en Ukraine récemment en prenant des camionnettes, ses mains et lui-même pour conduire lui-même sur plus de 2000 kilomètres ses camionnettes et ses ambulances jusqu'aux populations ukrainiennes qui, comme vous le savez, sont depuis 3 ans dans un conflit à grande échelle avec la Russie. Donc oui, c'est le pape des pauvres, c'est le pape des migrants, c'est le pape des oubliés, c'est le pape des plus démunis. Et vous allez voir que au cours des prochains jours et des premiers témoignages que l'on commence déjà à recueillir aux alentours du Vatican, ils sont nombreux à les lui rendre. Ils se sentent un peu orphelins. Ils espèrent que le souverain pontife qui lui succédera ne les oubliera pas.
Alors Jean-Charles Puzolu, justement, cette option préférentielle pour les pauvres, comme vous l'avez dit, on sait que dans l'Église, hein, même si c'est à gros traits, mais il y a deux tendances qui s'expriment, une tendance plus conservatrice et une tendance plus moderniste. Est-ce que les positions du pape François ont accentué ces deux tendances, ou est-ce qu'il a réussi quand même à unifier un petit peu les positions?
Alors, juste, vous avez dit option préférentielle pour les pauvres. Quelle que soit la tendance dans l'Église, toute l'Église catholique a toujours un regard particulier sur les plus démunis et sur les pauvres. François en avait un tout particulier. Ceci dit, bien sûr qu'il y a plusieurs tendances dans l'Église, et bien sûr que François est assez clivant par son caractère, par le fait qu'il ait voulu aussi énormément réformer la curie, mais c'est peut-être aussi pour cela que ses pères, et pour les croyants, l'Esprit-Saint l'ont choisi, c'était pour remettre un peu d'ordre dans le Vatican, dans l'organisation de cet organe central de commandement de l'Église catholique.
Et il y est parvenu ?
Il y est parvenu en partie, il y est parvenu, on peut dire, en ce qui concerne par exemple la transparence financière. Le Vatican n'est plus aujourd'hui considéré comme un paradis fiscal, mais respecte tous les critères internationaux de transparence. Donc ça, c'est à mettre au capital des acquis du pape François, et ça sera difficile de revenir en arrière. En revanche, pour la réforme de la curie, eh bien, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de la curie, à Rome, il y a de nombreux cardinaux. Beaucoup ont été nommés par le pape François, d'autres non, mais même parmi ceux qui ont été choisis par François, il y a un peu de grogne, parce que moi, je me souviens des premières rencontres qu'il avait eues avec les cardinaux en début de pontificat pour les vœux de Noël. Vous savez, ils arrivent tout souriants dans une belle salle du Vatican pour entendre le pape leur souhaiter bon Noël, et en fait, il leur a dit qu'ils étaient malades de 15 maux de la curie romaine, de l'égoïsme, de l'Alzheimer, etc., etc. Donc, ils étaient ressortis un peu sonnés. C'est vrai que l'année suivante, il les a un peu brossés dans le sens du poil. Il a été beaucoup plus clément et plus gentil avec eux. Mais c'est le fait aussi d'avoir, par exemple, créé un conseil des cardinaux. Normalement, les cardinaux de la curie sont les conseillers du pape, alors que lui, il est allé chercher d'autres cardinaux en dehors de la curie pour créer un conseil pour diriger le Vatican, pour se faire conseiller. Et certains, à l'intérieur de la curie, se sont sentis un petit peu écartés. Enfin, voilà, un double gouvernement. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, dans le choix des cardinaux, lors du prochain conclave, cela rentrera probablement en ligne de compte. Après, c'est difficile de faire des pronostics. Vous savez, il y a une phrase qui va être répétée de nombreuses fois.
Oui, qu'on a déjà beaucoup entendu.
Ouais. Exactement, vous rentrez pape dans un dans un conclave et vous en ressortez cardinal.
Bah alors, ça veut dire que la centaine, ils sont un peu plus de 100 cardinaux à voter pour l'élection du futur pape. Quelque part, finalement, ce conclave a été modelé par François, puisque en ces 10 dernières années de pontificat, il a nommé beaucoup de cardinaux. Est-ce que ça veut dire que finalement, le conclave et l'assemblée des cardinaux va ressembler en quelque sorte à la pensée du pape François?
Alors, ça l'a un peu toujours été. Ceci dit, c'est vrai, vous parlez du nombre de cardinaux. Pour être précis dans les chiffres, il y a 135 cardinaux électeurs aujourd'hui sur 252 cardinaux au total. Ça veut dire que 117 ne sont pas électeurs, ce qui veut dire qu'ils ont plus de 80 ans, donc ils ne participeront pas au conclave. Sur les 135 qui sont au conclave, il y en a 108 qui ont été créés par François. Donc, vous voyez, ça fait un bon nombre. Mais encore une fois, parmi ces 108, comme je vous l'ai dit, il y a bien sûr des gens qui sont favorables à la ligne de François, mais qui voudraient bien mettre un petit peu un bémol là où ça a grincé parfois. Donc, extrêmement difficile de faire des pronostics. Peut-être nous verrons un Italien, parce que ça fait 3 fois que l'Italie passe son tour pour élire le successeur de Pierre, mais parce que les Italiens sont encore majoritaires, notamment dans le collège des cardinaux. L'Europe, en général, est majoritaire. Sur 252 cardinaux, il y a quand même 114 cardinaux européens, puisque vous êtes de ce côté-là du globe, eh bien, il y a 4 cardinaux qui sont de l'Océanie. Donc, vous voyez qu'il y a une énorme différence. Il y en a 40 qui sont, par exemple, de la partie Amérique du Sud, Amérique centrale et des Caraïbes, 28 en Amérique du Nord, 37 en Asie. Donc, il y a effectivement une répartition aujourd'hui un peu plus accentuée vers les périphéries du monde, mais l'Europe reste quand même encore largement majoritaire et représentative.
Une toute dernière question, Jean-Charles Puzzolu, sur la situation actuelle, puisque l'état de santé du pape avait causé beaucoup d'inquiétudes ces dernières semaines. On le savait fatigué. On savait qu'il était en convalescence. On l'a vu le jour de Pâques apparaître un peu plus que les semaines précédentes. Dans ce contexte, est-ce que sa disparition a quand même créé un choc, même si on savait qu'il était fatigué et déclinant? Est-ce que pour les croyants et même pour le Vatican et la Curie, c'est un choc d'avoir vu ce pape disparaître le lundi de Pâques?
C'est un signal d'abord, parce que vous savez, Pâques, c'est un passage de la vie à la mort et à la résurrection pour le Christ. Donc c'est un peu la Pâque du pape François que nous venons de vivre. Il y a la tristesse de sa disparition et la joie de sa résurrection dans le Seigneur. C'est un peu comme ça que les croyants le vivent. Donc il y a ce sentiment partagé qui est que l'on retrouve au milieu des fidèles et des pèlerins qui sont à Rome aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été une surprise. On savait que dimanche il se serait montré à la foule, tout simplement parce que jeudi il s'est rendu dans une prison. Vous savez que chaque jeudi saint il avait l'habitude d'aller saluer et célébrer la messe de la scène du Seigneur avec des détenus. Il allait laver les pieds des prisonniers. Encore une fois, cette attention aux personnes qui sont marginalisées dans des prisons à Rome et autour de Rome. Jeudi, il a fait l'effort d'aller. Alors, il n'avait pas les forces de célébrer la messe, mais il a rencontré les prisonniers dans une prison sur les bords du Tibre, donc à Rome, pas très très loin du Vatican. Et on s'était dit, effectivement, sans qu'aucune communication officielle n'ait été donnée, une fois qu'il est sorti jeudi pour aller voir des prisonniers, il n'était pas possible qu'il ne se montre pas dimanche. Dimanche, il a fait un énorme effort, mais on savait qu'il était en convalescence, on savait qu'il y avait des petites améliorations. Je pense que dimanche, il a fait l'effort que lui-même voulait faire. Il l'a confié à son infirmier, Massimiliano Strapetti, la personne qui était toujours avec lui ces derniers temps. Il a dit amène-moi voilà, à la loge centrale de la basilique Saint-Pierre. Et après, ce qui n'était pas prévu, il a demandé à faire un tour en papa mobile au milieu de la foule, et il était extrêmement content. En même temps, c'est tout François. Je vous rappelle 2 choses. Son hospitalisation à la polyclinique Gemelli, je vous rappelle, c'était pour une pneumonie bilatérale. Oui. Voilà. Et à la première conférence de presse, ses médecins disaient écoutez, il va rester encore quelques temps à l'hôpital, parce que François, c'est François, dès qu'il va sortir de l'hôpital, il va se remettre à travailler. En fait, il est sorti de l'hôpital, les médecins lui ont conseillé 2 mois de convalescence, mais il ne faut pas arriver. Au bout de 15 jours, il s'était déjà remis au travail. Certes, pas un rythme énorme, faut le comprendre, mais il a commencé à recevoir des gens, quelques audiences, quelques rendez-vous, quelques documents qu'on lui soumettait pour approbation. Et jusqu'au moment où les mêmes médecins qui lui avaient conseillé 2 mois de repos et de ne voir personne sont allés le voir en groupe, ils étaient 70 la semaine dernière, à le rencontrer au Vatican. Il a reçu le roi Charles et son épouse Camilla du Royaume-Uni. La veille de son décès, il a reçu le vice-président américain, quelques instants, J.D. Vance, qui était à Rome, entre un voyage, on va dire, d'affaires professionnelles américaines et vacances en famille. Et puis dimanche, c'est François qui a voulu être encore une fois, qui a voulu se donner, s'offrir à la foule et aux pèlerins. Un collègue qui le connaît assez bien et qui avait pour habitude d'échanger souvent avec lui me disait lorsqu'il est sorti de l'hôpital, en fait, il voulait pas décéder dans un hôpital. Il savait que ses jours étaient comptés. Il voulait s'éteindre tranquillement au Vatican, au milieu des siens. Il voulait s'éteindre de la meilleure des manières et je pense qu'il a fait ce cadeau de se montrer dimanche et de disparaître la nuit.
Jean-Charles Puzolu, un grand merci d'avoir été en direct de Rome avec nous. Puis on vous souhaite bon courage parce qu'on imagine que les jours et les semaines qui viennent vont être très intenses du côté de l'actualité vaticane.
Oui, c'est un petit marathon d'un mois qui commence sans compter après les premiers pas du successeur de François.
On suivra ça évidemment de près. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Rome.
Merci à vous.
Et bonne nuit.
Merci.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour. Seulement 3 900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro 24 28 28.